Vous écoutez
RMC.
Police.
RMC, les grandes gueules, les GG et vous.
Aujourd'hui, on a parlé du feuilleton Plus belle la vie, vous savez, avec cet épisode qui a gêné des associations féministes, épisode sur la GPA. Donc, on va réécouter Anas tout à l'heure, parce que tu as interpellé les féministes, justement, extrait d'Anas, et tu discutes avec Céline Pic, d'Oser le féminisme.
Ces groupes féministes aussi, il va falloir qu'ils se réveillent et qu'ils fassent réellement pas que ça, pas que de la dénonciation, que ça soit le Tour de France ou autre, mais que je leur donne un exemple. Par exemple, il y a des femmes de chambre de l'hôtel Ibis à Clichy qui sont en grève depuis quasiment un mois. Allez les voir, ça c'est du féminisme. Des gens qui sont en grève, qui sont précarisés, qui subissent des agressions sexistes, etc. C'est ça le vrai féminisme. Allez voir les femmes qui souffrent, qui sont en galère, plutôt que d'aller à chaque fois vous occuper lorsqu'il y a un slip dans une publicité au moins.
Céline Pic, bonjour.
Bonjour.
Je vous laisse réagir à ce que dit Anas Kazib, alors allez-y.
Oui, alors ma réaction, elle était double. Premièrement, les féministes parlent de tous les sujets parce que le sexisme est malheureusement partout. Et en particulier sur cet exemple qui est particulièrement bien choisi, nous avons largement relayé sur notre page Facebook, sur les réseaux sociaux et dans nos communications. Et même, il y avait des militantes d'Oser le féminisme qui soutenaient le rassemblement, qui étaient présentes au rassemblement le 2 août. Et effectivement, ces femmes de chambre, elles subissent une triple oppression, capitaliste, raciste et sexiste. Et c'est hyper important d'en parler. J'invite vraiment les médias plutôt à nous inviter pour parler de ces sujets-là. Donc, nous parlons effectivement de tous les sujets. Ensuite, deuxième chose, ce n'est pas simplement de réagir par rapport à une série télé, c'est participer au débat public, et ça c'est essentiel, et vous l'avez très bien dit, plusieurs chroniqueuses l'ont très bien dit, c'est qu'effectivement il y a un soft power, Plus belle la vie regardé par des millions de personnes, ça a un impact sur la formation d'opinion publique, quelle est-elle sur la GPA, et là il y a vraiment des choses extrêmement graves qui ont été dites lors de ces épisodes. Je rappelle simplement juste un petit point de précision. Donc Céline, celle qui souhaite avoir un enfant, va importer une femme britannique sur le sol français et va, avec la complicité d'un médecin, trafiquer l'état civil pour déclarer l'enfant à son nom. Donc en fait, selon la loi française, c'est du trafic de femmes. D'accord. Et du trafic d'enfants.
Donc là, simplement, pardon Céline Pic, mais là, sur avant qu'Anas reprenne sur ce que vous avez dit, le boulot, on le fait, on va auprès, les féministes mènent plusieurs combats, mais en ce qui concerne Plus belle la vie, vous êtes en train de nous dire, c'est militant. On a eu un épisode militant.
On a eu un épisode biaisé, effectivement, avec des arguments qui étaient très fallacieux. Donc on a, bien sûr, une responsabilité de réagir pour rappeler ce que c'est que la réalité de la GPA. Et je pensais, habituellement, Plus belle la vie a des traitements beaucoup plus équilibrés. Et puis
c'est ce qu'ils ont dit, hein,
les différents points de vue.
Ça va s'équilibrer dans les autres épisodes. Alors Anas, tu vois, Oser le féminisme, ils sont sur les combats féministes et sociaux.
Non, mais après, il n'y a pas qu'une seule association féministe. Et heureusement, j'ai envie de dire. Derrière, moi, j'ai pas vraiment beaucoup de débats sur la question de contradiction sur la question de la GPA. Je partage plus ou moins ce qui est dit. Derrière, bon, sur le fond de l'interpellation, c'est-à-dire sur le truc de est-ce qu'on est présent. Moi, je pense que à un moment, on ne peut pas avoir un féminisme. Je suis d'accord sur la question des médias. C'est comme tout à l'heure, il y avait le Samuel Mandeleux qui s'il n'y a pas d'action, s'il n'y a pas de truc un peu médiatique, c'est vrai que les médias ne se penchent pas beaucoup. C'était bravo à vous si vous êtes parti aller soutenir ces personnes-là. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'associations féministes qui, au quotidien, ne vont pas aller voir soutenir les travailleuses, ne vont pas participer à des rassemblements, ne vont pas faire de tribune là-dessus, et que on a l'impression, moi je pense à cette fameuse ménagère de moins de 50 ans qui adore Plus belle la vie et qui ne voit pas ces choses-là, qui va se dire mais merde, moi je comprends pas, on est là, et va tout voir sur le prisme négatif, c'est-à-dire je comprends pas pourquoi on m'emmerde sur la question du Tour de France, pourquoi on m'emmerde sur Plus belle la vie. Moi, rappelez-vous, une fois sur le plateau des GG, j'avais une vraie passe d'armes avec une fidèle des GG, Rose, sur la question de cette fameuse publicité de jean, mais au final on est tombé d'accord. Mais c'est-à-dire que lorsque le féminisme il se cantonne uniquement à de la question de dénonciation de choses comme ça et qu'il n'est pas sur le terrain, sur la violence qui m'interpelle, mais parce que c'est très bien qu'elle y soit, qu'elle ait pu aller à ce rassemblement du 2 août, mais je pense que vous savez très bien comme moi qu'il y a beaucoup d'associations.
Céline, allez-y.
Les féministes sont mobilisées sur tout un tas de sujets, sur la lutte contre les violences sexuelles. La GPA est un sujet important et même crucial, puisqu'on est en train de voir un développement dans un certain nombre de pays de la GPA, et il est important de le mettre au débat public pour expliquer effectivement aux Français ce que c'est que la GPA. Et donc, il est étonnant aussi de nous donner des injonctions sur quelles sont nos priorités. En fait, nous traitons effectivement tous les sujets, parce que malheureusement, le sexisme et le patriarcat est partout. Et il n'y a pas de petit sujet, il n'y a pas de grand sujet, le sexisme est partout. Et dans la représentation, par exemple, quand vous parliez du Tour de France, quand la représentation des femmes qui est faite, ça a une influence, ça a un impact sur l'ensemble des personnes qui regardent la télé. Et de la même façon, sur Plus belle la vie, on a des millions de personnes qui regardent et qui auront une vision totalement faussée de la réalité de la GPA. Et donc, il est important, il est même essentiel pour participer au débat public et faire reculer le sexisme, d'interpeller les programmateurs.
Céline, juste un petit mot. Moi, je pense que sur la question de la GPA, il faut aussi parler de la PMA, parce que vous savez qu'à la différence, l'extrême droite aussi va être contre la GPA, mais parce qu'en disant la PMA mène à la GPA et du coup d'être contre la PMA. Et je pense que votre rôle aussi en tant que féministe, c'est de défendre la PMA et de en
merci Céline Pic. Dans un instant, suite du GG, vous, c'est Sylvain qui veut reparler avec nous, révolution technologique et automatisation. Bah tiens, ce sera pour moi. Tout de suite avec les GG.
RMC, 9h midi. Les grandes gueules.
Bienvenue à la radio ce matin.
RMC.
Un bruit étrange court dans Paris.
Dis-moi pas que c'est pas vrai.
Sans blague.
À ton understand.
9h.
Qu'est-ce qu'il y a?
Midi.
Mais pourquoi tu m'écoutes pas?
Qu'est-ce qu'il dit?
Pourquoi tu m'écoutes jamais? Qu'est-ce que c'est que ça?
Salut le mec, service.
Alain Marchal.
Savez-vous quel est le point commun entre tous ces personnages?
Les grandes gueules.
Dans cette nature magnifique et sauvage, où la vie animale fait sa loi, il existe pourtant une règle simple.
Pouvoir grand dans la vie.
Les GG, les grandes gueules, RMC, RMC Story, les grandes gueules qui terminent le show des GG en vous redonnant la parole. C'est vous qui revenez avec les grandes gueules, remettre les choses au point au 32-16, comme Sylvain de Charente, il est cheminot. Alors, on les appels de cheminot. Dès qu'il y a Anas,
ça y est.
Les cheminots, ils bombardent.
Les cheminots, je les salue tous.
Ils bombardent au 32-7. On a parlé automatisation, fin du métier de caissière dans les grandes surfaces. Progrès ou pas, visiblement, j'ai dit quelque chose qui a fait réagir Sylvain. On dit jeter le téléphone, c'est pas ça, c'est que sur le téléphone, tu as des applis dont tu te sers aujourd'hui. Et regarde, l'appli banque, depuis combien de temps, moi je suis plus allé à la banque ou tu vas plus à la banque. La dématérialisation, elle est là, elle avance. Alain. À partir du moment où cette dématérialisation avance, les grands groupes, ils s'adaptent parce que la dématérialisation fait que nos habitudes de consommation, nos habitudes d'achat, nos habitudes de fonctionnement sont en train de changer.
Mais c'est pas...
Pourquoi on met pas des êtres humains?
Mais parce qu'on en a,
ma question,
on en a moins besoin. Là, Sylvain, bonjour.
Bonjour les GG, bonjour Alain.
Je vous écoute.
Bonjour.
Non, on en a moins besoin. Allez-y.
Bon, c'est pas un échange GG, c'est juste une petite précision et je pense que vous prenez le problème à l'envers par rapport à l'exemple des banques. Les banques, effectivement, je pense qu'on nous impose plus à aller vers les applis. Deux exemples tout bêtes. Vous voulez un RIB, vous voulez déposer un chèque, vous allez voir le caissier ou la caissière, on va vous orienter sur la porte de distribution pour nous, justement, qu'on n'utilise plus les caissiers. Malheureusement, c'est que de plus en plus les portes de distribution sont en train de disparaître aussi, notamment en campagne. Donc automatiquement, on nous impose. C'est pas un choix forcément voulu. On nous impose d'aller vers les applis. Alors moi-même, je l'utilise, il n'y a pas de souci. Mais on nous impose quand même d'aller vers les applis. Et pour faire une petite parenthèse, un petit parallèle avec la SNCF, c'est exactement ce qui se passe avec la SNCF, avec les guichets. On ferme les guichets et on dit prenez les applis. Et donc c'est pas forcément un choix. Alors c'est pas un méchant coup de gueule.
Je comprends.
Une petite précision, je vous l'apporte.
Je comprends Sylvain, mais moi je pense qu'on est plus dans le domaine de l'adaptation. Je pense pas qu'on nous l'impose. Si vous voulez, aujourd'hui il y a cette espèce d'avancée très rapide. Ça a 10 ans. à plus, hein, vraiment le développement, le développement des applications qui a pris tout le monde de court et qui a forcé les gens à s'adapter. Mais quand je dis les gens, ce sont les entreprises et les comportements, parce que c'est facile dès qu'on a eu les smartphones et qu'on a vu qu'une application pouvait s'installer en 20 secondes mais et oui. que derrière on pouvait agir encore plus vite, ça a dépassé, c'est allé beaucoup plus vite pour les banques et pour les grands groupes. Donc ils ont dit bon, qu'est-ce qu'on fait ? Et moi aujourd'hui, je comprends, pour tout ce qui est courant tout venant, on a plus besoin de faire un certain nombre de choses et c'est beaucoup plus simple pour nous.
Je suis pas contre, hein. C'est pas mais en fait quand je dis on nous l'impose, c'est que
ça s'impose à vous. Je pense pas qu'on vous l'impose, ça s'impose aux sociétés et ça s'impose aux consommateurs. Alors après on peut très bien faire le choix de dire je n'en veux pas, je le refuse, mais on se marginalise et on continue. C'est comme l'échec, on en fait de moins en moins. À un moment les chèques vont disparaître. Je regardais même les pays d'Europe du Nord sont en train de ne plus avoir d'argent liquide. C'est quelque chose qui est en marche, qui va arriver. Alors autant s'y préparer, quoi. Moi, je pense.
Ouais, ça va pour mieux contrôler tout le monde, c'est sûr. Plus d'argent liquide, on peut mieux contrôler tout le monde.
Bah oui, c'est tout. Quand vous faites aussi, quand vous avez de l'argent liquide, vous faites du black. C'est aussi de l'argent qui échappe ensuite à l'impôt, aux retraites et autres, quoi aussi, Sylvain. Voilà mon cher Sylvain, notre petite mise au point tous les deux. Mais je vous envoie un t-shirt DGG. À bientôt Sylvain pour d'autres discussions. Anas Kazib qui va discuter avec Jean à propos
de la police.
Il fallait bien que ton GG vous sur la police.
Gardienne de la paix.
Non, on écoute Jean tout à l'heure quand on a évoqué l'interview du patron. Voilà, du patron d'UNSA Police. Et on a reparlé de la mort de Steve, de l'élucidation de cette affaire. Extrait d'Anas.
Monsieur de la Maréchaussée. On ne peut pas se cacher perpétuellement derrière le fait de on suit les ordres. C'est juste pas possible de se cacher derrière ça. Enfin après, il est dans son rôle de représentant de la police. Moi, ça m'a toujours étonné déjà qu'il y ait un syndicat de... Que les syndicats de police, j'ai l'impression que leur discours, c'est du nettoyage en communication. Moi, je considère que l'institution policière, c'est une institution coercitive d'un État, aux ordres d'un État. Ils sont là pour rétablir
l'ordre. Donc, il part avec une idée préconçue sur la police.
L'ordre d'une classe qui domine une autre.
Jean, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Marshall. Bonjour à vos invités et à Anas Kazib.
Bonjour, de Seine-Saint-Denis, à la retraite. Anas, vous écoute.
Seine-et-Marne. Oui, je suis un vieux policier, un vieux syndicaliste, pas du syndicat UNSA, mais Alliance. Du syndicat Alliance, déjà, hein, pour situer. J'ai fait du terrain et beaucoup de syndicalistes, et notamment des dossiers de discipline. Alors, Anas, je vais pas polémiquer, je vous demande juste de m'écouter simplement, hein, 30 secondes, ça va être très rapide. Anas, au sujet de la police, vous dites que c'est une police aux ordres. Alors, moi, je vais revenir aux fondamentaux. Vous savez que depuis Monsieur Badinter, ça remonte à très loin, tous les policiers sont mis à un code de déontologie. Ce code de déontologie de la police nationale rappelle et est basé sur tous les fondamentaux de notre société. Alors, quand vous dites que la police est une police aux ordres, hein, aux polices au service du pouvoir, alors, je vais vous lire deux petites choses et vous allez me dire ce que vous en pensez ensuite. La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. Cette force est donc instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. Deuxième chose, nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis. Mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant. Il se rend coupable par la résistance. Je viens de vous lire les articles 12 et 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui, pour mémoire, est quand même le texte fondamental de toute la législation française et la base du code pénal. Hein. Et voilà, je crois que tout est dit. Donc, comme vous le dites, si justement notre police, qui n'est pas une police républicaine, prévoit de sanctionner, de punir gravement, y compris pénalement, les fonctionnaires qui se livrent à des exactions... Il y a des corps d'inspection comme l'IGPN et il y a la justice pour régler ce type de problème. Ces gens-là font leur travail et croyez-moi, j'ai défendu des dossiers en discipline et je peux vous dire qu'au niveau de l'IGPN, l'IGS autrefois et la justice, J'ai vu beaucoup de mises en examen, j'ai vu des poursuites. Hein. Si vous voulez, on peut en discuter hors micro, et même je vous invite à ce qu'on se rencontre, et vous verrez que sur les exemples que je pourrais vous donner, pour certains...
Il
n'y
a jamais eu de cadeau, quoi, en fait, c'est ça. C'est, les policiers n'ont pas protégé la police, il n'y a jamais eu de cadeau. Anas Kazib.
Non, mais que derrière, l'IGPN, parfois, va sanctionner pour des histoires d'alcoolémie, des embrouilles entre policiers, entre eux, ou des choses comme ça. Enfin, oui, c'est comme dans une entreprise où, au final, voilà. Maintenant, enfin, moi, je vais vous donner d'autres exemples factuels. Sur la totalité des morts de jeunes de banlieue des 10 dernières années, il n'y a personne qui est parti en police. Il est personne n'est parti en prison, qui a été condamné. Il y a toujours des non-lieux. Enfin, à un moment donné, c'est ok de lire la déclaration des droits de l'homme. Je donnais un exemple tout à l'heure en off. Comment ça se fait que Jérôme Rodriguez, par exemple, qui a eu une altercation, ça a fait un peu la une de certains journaux la semaine dernière. Il y a une altercation, une dispute entre lui et sa femme. Il y a ni dépôt de plainte ni rien du tout. La gendarmerie vient toquer chez lui, le récupère sur ordre du procureur. C'est-à-dire que on se retrouve d'un autre côté où on a des féminicides, des personnes qui disent « moi j'ai porté plainte, il y a un policier qui m'a rigolé au nez, il m'a dit rentre chez toi parce que de toute façon on peut rien faire ». Quelques jours après, on apprend que le mari, soit il a mis une balle à sa femme, soit il l'a écrasée ou il l'a roué de coups jusqu'à la mort. Enfin, il y a un problème. Moi, tant que je verrai des policiers qui vont sur des piquets de grève, qui vont aller soulever des travailleurs qui sont en train de lutter, qui sont en train de défendre leur bout de gras, lorsque je vois par exemple le comportement qu'ont eu les policiers dans tout le long du mouvement des Gilets jaunes. Oubliez pas cette fameuse appel de FO SGP Police qui disait non, on est avec les Gilets jaunes, on va faire la grève et on va lutter, machin, etc. Dès qu'on leur a donné 100 balles, ils ont repris leur arme, leur LBD, et ils ont commencé aussi à tirer, à éborgner, à mutiler. Et ça, c'est un problème. C'est-à-dire que, ok, que derrière, l'IGPN sanctionne par moment de manière disciplinaire.
Ah, mais je peux vous répondre.
Juste une dernière phrase et je vous le dis. Moi, je vous le dis sincèrement, il n'y aura jamais aucun policier qui ira en prison sur des faits de violence policière. C'est pas possible. Parce que le jour où il y a un seul policier, peu importe ce qu'il a fait, peu importe qui l'a tué, va en prison, c'est tout un système qui tombe. Le jour où le policier se dit, même quand je flingue, et ben derrière,
Non, tu peux pas dire ça, Anna. Si, tu peux pas dire je flingue et derrière j'ai l'impunité. Ça, c'est irresponsable. Tu peux pas dire ça.
Attends.
Anna, tu peux pas dire ça. Et je vais même te dire, la semaine prochaine, on aura justement un responsable syndical policier qui viendra ici, dans les GG, dans les grandes gueules, nous donner des chiffres, nous donner des statistiques.
Mais il y a des procès, Anas.
Rappelle-toi, le syndicaliste, la commissaire qui était venue chez nous, il avait aussi trouvé que ce n'était pas normal qu'il y avait autant de tirs de LBD, etc., qu'il y avait une utilisation de la force disproportionnée. Enfin, faut le condamner.
Mais il y a enquête à chaque cas, il y a une enquête, tu peux pas faire.
Demain, on se retrouve dans les GG, 9h midi, Jacques Maillot, Joël Dagosséry, Étienne Liebig, et nous serons avec le docteur Christophe Prudhomme. Il est le président de l'Association des médecins urgentiste de France pour faire le point sur ce conflit. Chaque jour, ce sont des services qui se mettent en grève. On ne sort pas de ce conflit des urgences. Restez avec les grandes gueules et rendez-vous demain à 9h.
RMC, les grandes gueules.